Musique du Monde. Laurence Alloa. Musique du Monde sur RFI.
Et c'est du live qui va défiler dans cette émission avec les guitares de Jawa et de Kepa. Ce sont deux songwriters plutôt ténébreux. L'un vient de Tunisie, l'autre de Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Alors, dans une première vie, Kepa a été un skateur professionnel. Il a passé son temps à rouler sur sa planche tout en étant filmé sur les routes du globe. It's better live, comme on dit. Et puis les guitares métalliques sont arrivées. Le blues aussi. Divine Morphine est son deuxième album. En piste, camarades. Pas sur RFI dans les musiques du monde. Oh, il y a des cris.
Musique du monde. La session live.
Kepa qui vient nous présenter son tout nouvel album Divine Morphine que vous venez d'interpréter en guitare dobro. Bonsoir.
Bonsoir.
Bastien. Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Ça va, mais ce n'est pas moi qui ai écrit Divine Morphine, donc c'est pour ça que je m'inquiète de votre état de santé.
Ah, c'est gentil. Non, ça va bien, même ça va mieux.
Je rappelle que vous êtes un ancien skateur, que vous arrivez du sud-ouest de la France, que vous avez sorti un album en 2012 qui s'appelait Doctor Do Something.
C'est vrai.
Non, mais voilà, un petit résumé des épisodes précédents. Et que le skateur que vous étiez a dû abandonner le ride à cause d'une maladie très ennuyeuse qui s'appelle la spondylarthrite, ce qui fait que vous avez des inflammations au niveau des articulations. Maintenant que le dossier médical est ouvert,
ouais,
on peut le refermer. Non, mais ça veut dire aussi que vous avez dû arrêter le skate.
Oui, j'ai dû arrêter le skate. Maintenant, ça fait longtemps, donc c'est vraiment une page qui se tourne pas, en fait, parce que je suis né là-dedans, c'est toute ma vie, et ça le restera, je pense. Mais là, c'est pas vraiment la question de faire exactement l'état de santé, mon état de santé à travers un album, mais c'est plus, voilà, c'est quelque chose avec lequel je vis un peu pas à travers ça, mais c'est quelque chose qui est très présent, et donc le premier album, j'ai vraiment, j'ai gardé mon smile entreprise, et je me suis un peu caché derrière de la musique, et je l'ai pris un peu à la dérision, et là, je le prends toujours un peu à la dérision, mais bon, j'ai fait un point avec moi-même et je me suis dit qu'il fallait quand même que je l'accepte et que je l'utilise entre guillemets et que j'en fasse quelque chose et que je le transcende. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans cet album.
Quand j'ai reçu votre disque Divine Morphine, j'ai pas pu faire l'économie de penser à Sister Morphine qui était sorti au début des années 70 sur Sticky Fingers, un album des Rolling Stones, et puis il y avait une version de Marianne Faithfull. J'ai eu un peu peur que vous soyez tombé dans une forme d'addiction.
Non, ouais, non, je suis pas. Enfin, des addictions, c'est vrai que Divine Morphine, bon, ça représentait un peu une sorte d'état d'esprit ces dernières années. Mais en l'occurrence, ce morceau-là, c'est juste sur une expérience que j'ai eue, justement, d'une opération de mon dos, où j'ai goûté pour la première fois et pour l'instant la dernière à la morphine. Et ça a été juste une expérience et ça m'a juste inspiré et d'écrire juste, voilà, un petit clin d'œil, un morceau. Ça a été quelque chose de extrêmement agréable, comme tous les gens qui ont dû essayer cet antidouleur. Et à la fois, il y a quand même la morphine, ça vient, mais ça s'arrête aussi. Et donc, c'est le paradoxe de... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. C'est le paradoxe de cette drogue, quoi. C'est vraiment étrange. Et... Bon, après, j'ai pas pris dans ma vie de drogue. J'ai jamais été branché là-dedans. Mais là, ça a été vraiment quelque chose... d'assez incroyable, et donc voilà, c'est exactement ce que j'ai essayé de retranscrire à travers ce morceau. C'est les deux.
Kepa, comment un garçon de Bayonne se met à triper sur le blues américain, puis alors le vrai, hein, sur cet album, vous avez repris un titre de Skip James qu'on écoutera probablement en fin d'émission. Comment cette manière de concevoir la vie et de la vivre est arrivée jusqu'à vous après le skateboard? Je pensais que vous partiriez peut-être vers le rap, le rock.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est des questions que je me pose, que je me suis posées. Non, non, si, si. Et je répondais, c'est sûrement pareil. Et en fait, avec le recul, dans ma famille, il y a eu beaucoup de jazz. Ma grand-mère, qui s'appelle Kepa, mon père. Et je ne suis pas forcément tourné vers le jazz, mais en tout cas, depuis toujours, j'ai vu des musiciens. Et chez moi, ils étaient très sacralisés. Et donc, j'avais cette vision de ces gens. Et chez moi, on écoutait vraiment du jazz. On écoutait pas de la chanson française.
Et qu'est-ce qu'elle écoutait, Kepa, parce que vous lui avez rendu hommage sur les réseaux sociaux, parce qu'elle s'est envolée
Qu'est-ce qu'elle écoutait? Elle écoutait du early jazz, elle écoutait Oscar Peterson, Joe Jones. Voilà, moi j'entendais ça, donc j'ai pas forcément été happé par le jazz, honnêtement. Mais par contre, au-delà même de la musique, j'avais juste une vision de ces musiciens, de ces gens qui étaient chez moi sacralisés. Et je pense que ça a dû beaucoup jouer. Et un jour, je me suis plongé vraiment... dans cette un peu niche du blues du sud des États-Unis, et j'y ai trouvé une énergie que j'avais pas soupçonnée, qui m'a vraiment porté dans ma vie, qui m'a apporté beaucoup.
Et alors, cette énergie a plu à un Canadien à l'époque,
Taylor
Kirk, de Timber.
C'est mon ami, je l'appelle très souvent, et il m'a apporté, par exemple, ce monsieur, et pas que lui, Rodolphe Burger dans mon dernier album, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai été fasciné par l'intégrité de ces musiciens, et au-delà même de leur musique, le fait qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent, qu'ils choisissent exactement et qu'ils continuent à faire sans être tentés de... C'est facile au bout d'un moment, quand on gagne sa vie en faisant de la musique, d'être tenté de mettre le bon BPM, de faire le morceau à 2 minutes 50 pour que ça passe à la radio avec tel... Voilà, je découvre ces trucs-là. Mais voilà, ces gens-là, ils sont à l'opposé de tout ça. Et donc ça m'a influencé beaucoup.
Sur cet album, une reprise tout à fait étrange, mais c'est bien. Ça ressemble un peu à l'original, mais pas vraiment. C'est une reprise d'un titre qui a été popularisé par Cesaria Evora. On en reparle juste après, c'est le titre Saudade. Qui monstre est-ce, Camilo? Qui monstre est-ce, Camilo? Est-ce Camilo passa? Caminho longe, que monstro és, caminho longe, esse caminho passa também. Saudade, saudade, saudade. Avec votre version de Sodade qu'on peut retrouver sur votre deuxième album Divine Morphine. Alors, quand est-ce que vous avez entendu ce titre pour la première fois ? C'était dans la voix de Cesaria Evora ou de Bonga ?
Cesaria Evora. Et ça a été peut-être ma première émotion musicale. Et ce morceau, je l'ai toujours entendu et entendu encore chez moi. Et je me rappelle de la pochette du CD Cristal parfaitement de Cesaria Evora depuis que je suis tout petit. Et juste... Cette femme dessus, elle m'impressionnait, je me demandais, elle était habillée avec cette espèce de robe, mais je ne comprenais pas que c'était une robe. Enfin bref, ce morceau-là, c'est pour ça que c'est étrange de l'entendre peut-être comme ça, sur un album comme ça, mais pourquoi pas, après tout, ça fait partie de mes influences.
Grâce à Cesaria Evora, les gens ont su où se trouvait le Cap Vert sur une map monde, avec un timbre à son effigie, un passeport diplomatique. Ouais. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller faire un tour sur le continent africain ?
J'ai déjà mis les pieds, mais...
Où ça ?
Le doigt de pied, souvent, qu'on met en Afrique, c'est-à-dire au Maroc...
Afrique du Nord.
En Tunisie...
Et en Algérie.
Et non, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Algérie, mais dans l'absolu, moi, j'aimerais bien... rendre visite à tout le monde.
Vous êtes parti en Tunisie, au Maroc, c'était pour des concerts ou pour des vacances ?
Ni l'un ni l'autre, c'était pour faire du skateboard.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez visité comme pays avec le skate ?
Comme pays, j'en ai visité pas mal. Genre. Mais comme pays, je sais pas, il y a les classiques, mais comme pays moins classique où on se dit pas, premier abord, tiens, je vais aller faire du skate, il y avait la Birmanie, l'Ukraine. Ça fait longtemps maintenant que j'y suis allé et je me demande... Le guide qu'on avait sur place, qui nous a fait une remarquable visite, je me demande évidemment ce qu'il est devenu maintenant. Ça fait longtemps et tous les amis avec qui, enfin les amis, les skateurs avec qui je suis allé, on s'est tous, évidemment, on a tous pensé à lui, même si ça fait 8 ans. Je pense pas qu'on aura la réponse. Et puis sinon, je sais pas, la Jordanie, j'en ai allé en Jordanie, à Petra. Enfin, bref.
Vous avez fait du skate à Petra? Ouais. Vous allez interpréter un titre qui s'appelle Eldorado. Alors sur l'album Divine Morphine, vous êtes accompagné par Sarah McCoy, qui est aussi passée dans cette émission. Sur votre biographie, il est écrit que Sarah est une hobo. Le côté hobo, c'était les saisonniers, les journaliers qui allaient d'un job à l'autre, en général sur des propriétés agricoles, et qui voyageaient dans les trains sans billets, évidemment. Cette espèce d'imagerie des États-Unis d'avant et après la crise de 1929. C'est un mode de vie qui vous ressemble un peu, parce que je pense à vous au skate, vous baladant un peu partout autour de la planète, sur des roulettes.
Ce serait magnifique de le dire, mais juste maintenant, ma vie, elle a changé depuis longtemps. Ça, c'était il y a 10 ans, ouais, je sais pas. Maintenant, ça me paraît loin. Entre-temps, j'ai eu une vie tellement à l'opposé, très chronophage, à jouer... sur mon instrument. J'ai une vie vraiment de...
De curé.
De curé, ouais. Non, mais je voudrais bien rebondir sur Sarah, qui est quand même... j'ai beaucoup d'affection pour cette personne que j'ai rencontrée par hasard sur une date et qui finalement... on a sympathisé jusqu'à 6h du mat et qui finalement finit sur mon album en chantant en français d'ailleurs pour la première fois.
Elle est américaine, d'origine de Louisiane.
Oui, exactement. Et juste cette personne, c'est vraiment devenu une amie que je vois peu parce qu'elle est très occupée. On fait le même métier, ça nous a bien soudés. Elle est extrêmement drôle et absolument géniale. Elle croit être le patient zéro du Covid.
Un bout ?
Ouais, elle croit réellement que c'est le patient zéro, donc elle y croit dur comme fer. Donc, enfin bref, non, mais elle est haute en couleur et absolument adorable.
Eldorado, Kepa dans la session live.
Que je suis bien allongé dans mon bain. Alors que le ciel tombe, alors que tout se délite, que je suis bien. Ça va être
manquez pas sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Avec le titre Eldorado, Kepa, vous avez eu 3 ingénieurs du son aujourd'hui pour faire votre coloration de guitare de Dobro, Mathias Taylor, Fabien Munuret et Benoît Le Tyran. On va terminer cette émission avec un extrait de l'album, le nouvel album Divine Morphine. Et là, on a tapé dans du Skip James.
Il fait partie des plus grands, bien sûr, et surtout de ceux qui m'ont vraiment transcendé, je peux dire.
Pourquoi vous avez choisi le titre Hard Time, Killing Floor? Est-ce qu'il a une résonance particulière avec vous?
Ben en réalité, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est Rodolphe Burger qui me l'a soufflé à l'oreille et je suis allé le rencontrer à Sainte-Marie-les-Mines. Exactement. Et donc, je suis allé le rencontrer.
Vous êtes rentré dans la famille Burger, alors?
Je ne sais pas si je suis dans la famille, mais en tout cas, je suis allé le rencontrer chez lui. Je me suis retrouvé d'ailleurs dans un torrent à 3 degrés en slip avec lui 5 minutes après l'avoir rencontré parce qu'il y avait une rivière en bas de chez lui et il venait d'arriver, il m'a proposé de... Et moi j'adore me baigner en eau froide, il se trouve, il n'y a pas grand monde qui aime ça et lui aimait ça et on s'est retrouvé là et on a commencé à parler musique et puis on a joué un petit peu et puis il a vu ma voix de tête et il s'est dit mais ça pourrait être intéressant qu'on joue... Hard Time Killing Floor ensemble, parce que lui, il a une voix extrêmement caverneuse et très, très grave, et donc c'est ce qu'on a fait.
Merci Kepa, on se quitte avec Hard Time Killing Floor, une reprise de Skip James avec Rodolphe Burger. À bientôt.
À bientôt, merci.
Bye, Skip James. Divine Morphine, c'est l'album de Kepa. Évidemment, il est disponible. Vous pouvez bien sûr réécouter sa session live sur le musique.rfi.fr. Et maintenant, nous recevons Jawa pour une nouvelle session live.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Taswira est le 4e album du songwriter belgo-tunisien Jawar. Entre littérature, théâtre et musique, le Nick Drake méditerranéen poursuit sa quête éperdue de beauté avec sa voix, ses textes et les cordes de sa guitare. Il va interpréter 2 titres de son nouvel album dans cette nouvelle session live. Le premier, Malgit.
L'ayam qui ferie وحروبي تتوى نشري ومنبيع وندوخ بين الأسحار نشارك جروح وجروحي بلا دواء نستانس بالجوع ونسقي بلا شماع ما لقيت وين نستانس ما لقيت وين نستانس ما لقيت وين نستانس الروح في البلاس لمحين الزيت وانا ربيعي غنى نسافر ونضيع وندور بين العباد ندادي على نشيد قصور ونفيض كيف الوقت ما لقيت وين نستانس ما لقيت وين نستانس ما لقيت وين نستانس في البلاد.
Jawa sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Jawa, vous dites sur le titre Malguide qui veut dire je ne trouve pas. Le temps file comme le vent, mais mes guerres restent sans fin. Alors c'est une balade existentielle. Vous êtes en quête d'absolu. Dites-moi. Bonjour.
Bonjour. Oui, c'est quelqu'un qui erre à la recherche d'un absolu, de quelque chose qu'il appelle ruh. Ça veut dire, c'est un mot arabe qui veut dire l'âme. En fait, c'est pas une traduction tout à fait fidèle. Ça peut être ruh, on peut entendre par là aussi l'authenticité des choses, le fond des choses. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer en fait.
Jawar, vous sortez un nouvel album, Taswira, c'est le quatrième. Vous avez commencé votre carrière discographique il y a maintenant 15, 16, 17 ans. C'était en 2005. Vous êtes déjà venu dans cette émission pour l'album précédent. Cet album s'appelle donc Taswira et qui signifie quelque chose.
Qui veut dire image, portrait, photo ou dessin, mais aussi projection d'esprit, parce que c'est de la même racine, tasawur, qui veut dire l'imagination et l'image, enfin, en français aussi d'ailleurs. Et donc c'est un instantané pour moi, un instantané de vie, un arrêt sur image d'une période de ma vie. Et on parlait tout à l'heure de personnages, de
oui.
Contrairement à Winramara, qui
l'album
précédent, où j'ai vraiment exploré aussi l'idée de travailler, enfin d'écrire pour des personnages qui soient complètement différents de moi, enfin des personnages comme vraiment comme on écrirait pour un personnage d'une pièce ou d'un
absolument,
roman.
Absolument, on est pas obligé d'être dans l'autofiction voilà. Perpétuellement.
Celui-là, contrairement à Winramara, il s'assume en tant que, je commence à l'assumer en disant plutôt en tant que série d'autoportraits, mais portraits d'artistes un peu comme ça qui se veulent être universels, on va dire. que ça parle pas directement de moi, mais que ça parle du cheminement de l'artiste en général, de ses phases de vie, de ses phases de bonheur, de joie, de déprime aussi, enfin de dureté aussi, de ce fardeau qu'on porte tous les jours, avec lequel on dort et on se réveille, qui est la création.
Alors, parmi les figures tutélaires qui parcourent votre carrière, il y a deux auteurs qui semblent quand même vous avoir marqué. C'est un Anglais et une Américaine, William Blake et Emily Dickinson. Emily Dickinson avait cette très jolie phrase qui disait « Vivre est si stupéfiant, il ne me reste que peu de place pour d'autres occupations ». Alors Emily Dickinson, de son vivant, n'a jamais connu la gloire, le succès, c'est plus tard, hein, quand elle est morte. Donc je ne vous souhaite évidemment pas le même parcours. William Blake, lui, c'était un visionnaire. Il était porté par un esprit supérieur, on va dire, d'ordre spirituel. Votre quête à vous s'apparente à ces deux-là, à ce romantique anglais et à cette jeune femme américaine qui arrive du 19e siècle?
Moi, j'estime que chacun a sa quête, en fait. Ils ont vécu dans un territoire qui est le leur, avec un temps qui est le leur et un contexte qui est maintenant historique pour nous, mais voilà, c'était le présent pour eux.
Votre maman est toujours professeure de littérature arabe ou...
Oui, mais elle n'est plus, parce qu'elle est à la retraite.
Le papa, lui, était plutôt s'est consacré au théâtre et après à la politique culturelle. Donc ça veut dire que vous avez grandi dans un univers, j'allais dire, universitaire, dans un univers lettré, donc vous avez beaucoup lu. Je vous avais fait du théâtre aussi, vous avez joué Othello de Shakespeare, le général mort de Venise, à qui on va faire croire que sa femme le trompe et il va la tuer. On vous instille un poison par l'oreille, la jalousie. Est-ce que les planches vous manquent? Est-ce que, quand je dis les planches, pas pour faire de la scène, de la musique, est-ce que vous avez de nouveau des envies de comédien?
Oui. Ça fait quelque temps, en effet, que je n'ai pas fait théâtre et ça me manque un petit peu.
Écrivez vos pièces.
Mais je suis sur un petit projet là, mais en même temps, la musique me prend beaucoup, beaucoup de temps et vivre aussi, comme dit Emily Dickinson, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si vraiment on consacre du temps aux choses simples de la vie, c'est énorme en fait. Et à un moment donné, je crois que j'avais l'impression de m'éparpiller, d'être un peu partout. Et je me suis dit, je vais juste garder l'essentiel. Et ce qui m'importe le plus, là, en ce moment, c'est d'écrire des chansons et de les jouer devant des gens et de faire des disques. Donc j'ai continué à faire ça et j'ai plus tellement cherché à faire autre chose.
Jawar, on va écouter un extrait de ce nouvel album, Taswira. Écoutez, j'ai pris le titre qui a fait l'objet d'un clip. Le titre s'appelle Schizo...
Hiyout.
Voilà, c'est pour ça que je voulais... Qu'est-ce que ça veut dire?
Les Hiyout, c'est les murs. Donc Schizo, mur Schizo.
Une petite idée pour Schizo. Jawa. Yeah. Jawa, quelles sont les conditions de travail idéales pour la création ? S'isoler, lire, bien manger, écouter le monde extérieur ?
Je me laisse pas trop influencer. Après, on se laisse influencer inconsciemment, qu'on le veuille ou non, parce qu'on observe à l'extérieur, dans le jardin, par le chant des oiseaux. Oui, j'habite à la campagne. Ou par ce qu'on a vu, par ce qu'on a lu, évidemment, mais par l'air du temps, même si moi j'ai tendance à me couper un peu des infos, à rien écouter, presque rien lire, à part quelques médias. Parce que c'est dur aussi de pas laisser ça envahir son quotidien, de continuer à travailler avec ce truc qui monte du monde extérieur. Mais bref. Mais j'aime l'idée qu'en fait, moi j'avance sur des morceaux. C'est comme un dessin pour moi. Et vraiment, la mélodie, c'est comme quelque chose que je ne vais pas y rajouter plus quand j'ai fini le morceau. Et j'aime l'idée que le morceau finit par me raconter par son univers, avant que les mots arrivent, finit par me raconter quelque chose et me chuchoter une petite phrase, un petit refrain, ne serait-ce que la mélodie que j'ai choisie, elle impose un certain nombre de syllabes sur le refrain, c'est pas plus, pas moins. Donc il y a cette contrainte-là, et donc c'est le texte qui doit épouser la mélodie et pas la mélodie qui doit épouser le texte. Et voilà, et à partir de ce petit étincelle, cette petite phrase ou cette petits mots que me raconte le morceau, il y a une histoire qui naît dans ma tête et le texte arrive par la suite.
Jawar, vous êtes né en Tunisie, vous êtes maintenant en Belgique. Quelles sont les musiques qui vous ont bercé ? Parce que ce que vous faites aujourd'hui, je pourrais pas, en écoutant vos compositions, vous dire « Ah tiens, il a beaucoup écouté Oum Kalsoum et Férouz, lui, quand il était petit. » Pas une seule seconde. Éventuellement, et ça c'est marqué dans vos biographies, on irait pencher du côté de Nick Drake, qui a aussi une carrière assez courte, parce qu'il s'est suicidé. Il a fait 3 disques.
Aussi.
Oui, voilà, c'est bienvenu.
Aussi pas.
Je voulais savoir si ce que vous écoutiez petit pour arriver à cette musique-là, qui n'est pas franchement celle qu'on peut écouter lorsqu'on va en Tunisie ou en Afrique du Nord ?
Non, pas du tout. En effet, c'est mon parcours, en fait, c'est mon cheminement qui a fait que je fais ce que je fais. Je pense que ce qui reste peut-être de la musique que mes parents écoutaient quand j'étais petit, à savoir Oum Kalsoum et des gens comme ça, c'est le rapport presque sacré à la musique. Mes parents n'écoutaient pas de la musique en faisant autre chose. Ils se posaient le week-end quand ils avaient le temps. Ils prenaient leur petit café et ils faisaient que ça. Ils écoutaient de la musique. Quand ils écoutaient de la musique, ils faisaient que ça. Et ils chantaient avec. Voilà, on sentait qu'ils étaient dedans. Et donc, il y a un rapport très... tout à fait à l'encontre du rapport qu'on a aujourd'hui à la musique. C'est-à-dire, c'est très divertissant, on écoute plein de trucs en même temps.
Ça passe
dans les supermarchés, c'est pour meubler. Et c'est vraiment un rapport à la musique avec lequel j'ai vraiment du mal. Ensuite, voilà, j'ai grandi, je suis parti, j'avais eu l'envie de partir très tôt. J'étais ado, j'étais impatient je piétinais, j'avais envie de partir pour découvrir d'autres choses et j'ai fait le chemin que j'ai fait en faisant ma musique, en découvrant d'autres auteurs-compositeurs plutôt européens ou américains.
Quelle a été votre première émotion musicale ? Vous êtes guitariste, vous jouez d'autres instruments ?
Je suis guitariste.
Oui. Quel est le guitariste dont vous avez repris les riffs continuellement quand vous étiez jeune homme ? Il y en a, c'est Led Zeppelin, d'autres, voilà. Et puis on recommence, et pendant des heures, et l'immeuble est en feu.
Oui, mais non, en fait, moi je ne suis pas passé tellement par cette case-là où je reprends des choses et je fais le groupe de reprise et j'apprends la musique comme ça. J'avais une conviction en achetant mon premier instrument, cette envie et cette conviction que, en achetant mon premier instrument, d'aller chercher un petit peu ce qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Et j'avais l'impression que j'avais quelque chose à construire à partir de rien, c'est-à-dire en établissant un rapport avec cet instrument. Vous parliez de Nick Drake tout à l'heure, je crois qu'il a eu un petit peu le même cheminement. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un que j'ai repris, c'est lui en fait. Riverman, c'est le premier morceau que j'ai joué de lui à la guitare. Et je pense que ça a été un peu une école pour moi en fait, en quelque sorte.
Vous êtes recueilli sur sa tombe en Angleterre ? Vous savez ce qu'il y a d'écrit sur sa stèle ? Il y a écrit « Now we rise and we are everywhere ». En fait, c'est extrait de la dernière chanson « From the Morning », la 11e chanson de l'album Pink Moon, et qui veut dire « Maintenant, nous nous élevons et nous sommes partout ». Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Alors, comment on reprend cette interview ?
Non, c'est très beau, c'est très beau.
Comment vous êtes perçu en Tunisie ? Est-ce que votre travail est connu ?
Oui, mais pas du tout dans les radios, télé classiques, plutôt chez des jeunes qui s'intéressent à la musique alternative. Il y a une chouette radio qui s'appelle MISC qui essaie de survivre, qui passe ma musique.
Comment elle s'appelle
cette MISC.
MISC, oui. Elle est à Tunis.
Oui.
D'accord.
Oui.
Le côté alternatif vous plaît bien, hein ? Vous êtes un militant souterrain ?
Mais ce n'est pas une volonté, c'est simplement que ça ressemble à ce que je défends. Et l'association du consumérisme à large, j'ai du mal, vraiment. Et j'ai l'impression qu'on nous dépossède tous les jours de ce qu'on fait, en fait. On essaie de créer de la beauté et puis on veut le rendre vendable et puis on l'écrabouille, on le met dans une boîte et on essaie de le vendre aux autres. Et finalement, on nous le vend à nous artistes. Non, ça y est, Zine, justement, qui veut dire chasseur de beauté. C'est un peu le morceau qui, pour moi, représente le plus l'album.
Bon, on en écoutera un extrait, d'ailleurs.
D'accord.
سياد الزين بيت الليل بيت الليل تسافر بيه نجوم وفكار وتفيد بيت مريض بيت مريض وشاذد من النوم وسطاد الريح بيت جريح الريحة تميل وسفاين بيتموش
Un artiste avec qui un jour vous aimeriez, pas croiser le fer bien sûr, mais croiser la musique.
En tout cas, j'aimerais bien le rencontrer, Pierre Spatini.
Oh, sûr. Bah écoutez, nous pouvons arranger ça peut-être. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose d'important sur cet album ?
Vraiment, j'ai eu une phase un peu difficile en fait avec ce disque-là, à un moment donné, dans la finition. Et du coup, c'est pour moi un disque qui parle aussi de sa propre genèse. Et aussi, je crois que j'ai appris quelque chose aussi avec ce disque dans mon cheminement personnel, artistique. J'ai appris à accepter aussi le premier jet parfois, de dire voilà, ici, il y a une fragilité ici dans cette prise-là, mais en fait, il faut la garder parce que sinon.
Vous êtes comme le peintre, à un moment, il faut enlever le pinceau de la toile, quoi, il faut s'arrêter.
Oui, j'ai tendance à être un peu trop perfectionniste. Mais le pire, c'est que j'ai tendance à l'entendre dans les autres albums. Je me dis, tiens, là, ce morceau manque de vie parce que j'ai trop polissé les choses, parce que j'ai trop essayé de faire un truc parfait. Enfin, parfait dans l'intention, pas dans l'absolu, mais...
Vous pouvez réparer sur scène, en étant sale.
Oui.
En cradant vos morceaux.
Oui, mais il faut un peu de scène, en fait, dans les disques. Et c'est vraiment un truc qu'on n'arrive pas à accepter quand on est jeune. Et je crois qu'avec l'âge, on y va petit à petit. Il faut de la vie dans les disques. Il faut accepter que ce soit juste un instantané de ce moment-là et pas l'enregistrement qui va représenter pour l'éternité le morceau. Il faut être prêt, simplement. Je pense que s'il y a des défauts, c'est pas grave. C'est parce que s'il y a des défauts...
Si c'est gravé, c'est bon.
C'est en nous, en fait.
Sur scène, non. C'est pas grave.
Si l'intention est bonne. Et je crois que cette tendance, elle est là parce qu'on en a marre d'écouter des trucs hyper produits, hyper léchés, où on n'entend plus du tout les musiciens jouer ensemble. On n'entend que des couches.
Il n'y a pas de nuance.
Nous, en tout cas, on essayait ici de ne garder que ce qui a été joué en vrai. C'est-à-dire que si on est quatre à jouer le morceau, on ne va pas... On le joue à quatre et on ne va pas rajouter des cordes, on ne va pas rajouter des instruments avant, on ne va pas rajouter un clavier en plus. C'est l'arrangement qu'on a fait à quatre, on le joue et on garde. C'est un peu ça l'idée, donc il y a un côté vachement plus brut que les albums d'avant.
Jawar. Je rappelle que votre album s'appelle Taswira et que je vous autorise alors à jouer un titre, Fuglayem.
Au-dessus des jours.
Au-dessus des jours. Merci Jawar d'être Jawar. Merci d'être passé dans cette émission. Le son était assuré par Fabien Munuret et Mathias Taylor. À bientôt.
عديت اشتاق وربيع انساك
تبعتلو وريق فوق ليام فوق ليام فوق ليام نعيش كيف طاحوا نجوم ما كنت نكون ما كنت ندوخ بالليل ما كنت نطيح نقوم النوم ظلام النور يولي حضور وهبال وزين
Merci Jawa. Je rappelle que les coordonnées des artistes sont sur la page d'accueil de l'émission et le podcast sur le RFI.fr. À bientôt.